Certains parmi vous se rappellent forcément le grand jour, ou plus exactement la nuit incroyable, où pour la première fois un homme a marché sur la Lune. Aujourd'hui, on en parle tranquillement, mais à l'époque, c'était un des plus grands rêves de l'humanité qui se réalisait. Pendant des siècles, pendant des millénaires, la Lune avait été considérée, au même titre que le Soleil et les étoiles, comme un grand luminaire inaccessible. Rendez-vous compte, s'en aller se poser sur la Lune. Cyrano de Bergerac en avait rêvé, bien sûr. Jules Verne, avec un siècle d'avance, l'avait pensé dans le détail. Plus près de nous, Hergé, dans deux albums prémonitoires, Objectif Lune et On a marché sur la Lune, l'avait fait vivre en imagination à des milliers d'adolescents. Ces albums, du reste, ont beaucoup fait pour populariser l'image de la fusée. Oh, la fusée à propulsion gazeuse n'était pas une invention récente. On connaît ce principe depuis le XIe siècle au moins, et on en a construit au XVIIIe et au XIXe siècle. Mais c'est au XXe que l'instrument est devenu efficace, avec les terribles V1 et V2 lancés par les Allemands, notamment sur Londres et sur Anvers, en 1944. Or, les ingénieurs allemands qui avaient mis au point ces fusées ont été récupérés à l'issue de la guerre par les Américains et par les Soviétiques, qui étaient très intéressés par ces fusées parce qu'elles pouvaient emporter des charges atomiques. C'est que durant la guerre froide, les deux superpuissances de l'époque se sont littéralement jetées dans une course aux armements. Or, dans cette compétition sauvage, le contrôle de l'espace intersidéral est considéré comme essentiel, d'où une autre course, pacifique en apparence mais qui ne l'était pas tant que ça, la course à l'espace. Et oui, je suis désolé, je sais bien que ça casse un peu le rêve, mais la conquête lunaire est le résultat direct de cette course à l'espace, course acharnée, pour ne pas dire sordide, entre Américains et Soviétiques. Dans cette compétition, les Russes ont d'entrée de jeu pris l'avantage. Dès octobre 1957, ils créent un choc planétaire en annonçant le succès de Spoutnik, le premier satellite artificiel jamais lancé. Or, dès le mois suivant, ils envoient un petit animal, en l'occurrence la chaîne Laïka, en orbite autour de la Terre. À la Maison-Blanche, on est à la fois surpris et consterné. Il importe de réagir. Le président Eisenhower tout de suite annonce la centralisation des moyens de recherche dans une agence nationale, la future NASA, et l'accélération du programme spatial. De leur côté, les Soviétiques jubilent, et rien que pour énerver les Américains, ils vont multiplier les effets d'annonce prestigieux. En janvier 59, c'est l'Unik 1 qui est le premier objet échappant à l'attraction terrestre. 8 mois plus tard, l'Unik arrive à percuter la Lune, et là on peut dire qu'un frisson parcourt la Terre entière. Les Russes vont beaucoup plus loin. En avril 61, ils sont encore les premiers à envoyer un homme dans l'espace. C'est Youri Gagarine, bien sûr, qui restera un grand mythe. Là, les Américains sont verts. Et dès le mois suivant, le président Kennedy se croit obligé de répliquer. Et selon son habitude, il va lancer un énorme coup de bluff. John Fitzgerald Kennedy proclame la ferme intention des États-Unis d'envoyer un homme sur la Lune avant la fin de la décennie. Le monde est incrédule, pour tout vous dire, et les Soviétiques ricanent. Ils ont tort, parce qu'aux États-Unis, cette déclaration solennelle du président a été prise très au sérieux. Des moyens sans précédent sont mis en jeu. Plus de 300 000 ingénieurs et techniciens supérieurs vont désormais consacrer tout leur temps à atteindre cet objectif en apparence inaccessible, et les premiers résultats ne se font pas attendre. Dès février 62, les Américains font faire à John Glenn, leur premier astronaute, 3 révolutions terrestres. Fin 65, ils parviennent à faire voler 2 cabines Gemini à moins 1 mètre de distance l'une de l'autre. En mars suivant, Gemini 8 est arrimé en vol à la cible Agena. Et 3 mois plus tard, les Américains parviennent à poser en douceur la sonde Surveyor sur la Lune. Il est vrai qu'à la même époque, les Russes ont mis Luna 10 en orbite autour de cet astre tant convoité et que 2 ans plus tard, en septembre 68, ils parviennent, exploit sans précédent, à en ramener entière la sonde Zond 5. Les autres pays, pour l'instant, en sont réduits à compter les points. Mais cette fois, l'avantage est clairement dans le camp des Américains et cet avantage, il va se manifester dans le programme de vol habité Apollo. Cela dit, la décennie est bientôt finie et rares sont ceux qui pensent alors que le pari du président Kennedy pourra être tenu. Les meilleures volontés se heurtent encore à un problème de taille que l'on pourrait résumer ainsi. Envoyer des hommes sur la Lune, c'est une chose, mais une fois qu'ils sont là-haut, il faut encore être capable de les ramener sur Terre. Et ça c'est une autre affaire. Dès le début de l'aventure, c'est-à-dire dès 1958, la grande difficulté à surmonter aura été le retour des astronautes. Alors bien sûr, il y a eu un certain nombre de projets fantaisistes. Pourquoi ne pas envoyer des réservoirs sur la Lune, ce qui permettrait aux astronautes de faire le plein avant de repartir? Il y a même eu mieux, un très sérieux bureau d'études a proposé d'envoyer un homme sur la Lune avec un énorme ravitaillement qui lui permettrait d'attendre tranquillement des années s'il le faut que les ingénieurs aient trouvé un moyen de le ramener. Avis aux amateurs. Plus sérieusement, il y avait trois cas de figure possibles. Le premier, celui que privilégiait l'administration Kennedy, consistait à faire l'aller-retour en mode direct. Le problème, c'est que ce procédé suppose la mise au point d'une fusée extraordinairement puissante, très coûteuse à réaliser et à faire fonctionner, et qui demandait des délais de mise au point sans doute extrêmement longs. Une solution plus élégante qui a été proposée par la NASA et soutenue par le grand ingénieur allemand, le père des V2, Werner von Braun, et qu'on appelle le rendez-vous en orbite terrestre, proposait qu'on envoie une première fusée afin de placer le vaisseau en orbite autour de la Terre, et puis l'Odyssée s'effectuait ensuite à partir de cette orbite. C'est un peu moins long à mettre au point et surtout c'est moins coûteux. Mais il y avait une troisième solution encore plus maligne. Cette fois, on appelle ça le rendez-vous en orbite lunaire. Le vaisseau file vers la Lune et parvenu en orbite autour d'elle, il libère simplement une capsule. Cette solution est habile, elle est économique, elle est légère à mettre en œuvre, simplement, elle relève de l'acrobatie technique. Il faut bien réaliser qu'au départ, on n'a encore jamais fait de manœuvre en orbite terrestre. Alors vous pensez ce qu'il en est de l'orbite lunaire ? Tout le monde écarte donc la troisième solution du revers de la main. Tout le monde, sauf un modeste ingénieur du centre de recherche qui s'appelle Humboldt. Lui est convaincu, mordicus, de la valeur de cette troisième solution. Il le dit, il l'écrit à qui de droit, il le hurle à ceux qui ne veulent pas l'entendre. Et peu à peu, au prix de vexations terribles et de déceptions répétées, il parvient quand même à rallier quelques responsables à sa cause. Un jour, il va même réussir à convaincre Werner von Braun lui-même. Le savant allemand a fini par admettre qu'il est très intelligent d'alléger le véhicule spatial d'étape en étape, au point que la capsule finale, celle qui reviendra sur Terre, ne pèse plus que 5 tonnes, comparée aux 3100 tonnes de la fusée de départ, vous avouerez que c'est pas grand-chose. Humboldt a fini donc par triompher, c'est sa solution qui finalement est retenue en novembre 1962. Naturellement, la mise au point ne va pas être une partie de plaisir. Il faut 5 et même 6 missions pour parvenir à manipuler correctement les différents éléments du convoi. La mission Apollo 7, vous vous le rappelez peut-être, tourne à la tragédie. En janvier 1967, pendant des exercices d'entraînement, les trois astronautes Grissom, White et Chaffee sont brûlés vifs dans leur cabine. Dès la 8e mission, on tourne en orbite autour de la Lune. Apollo 9 fait manœuvrer le module lunaire en orbite terrestre. Apollo 10 le fait fonctionner en orbite lunaire. Eh bien, le 11e essai devrait être le bon. L'équipage de service pour cette très décisive mission Apollo 11 est composé de 3 hommes. Michael Collins, qui sait d'emblée qu'il va rester dans la capsule en orbite, baptisée Columbia. Et puis 2 autres qui, en orbite autour de la Lune, iront se glisser dans le module lunaire en vue d'alunir. Edwin Aldrin, que tout le monde surnomme Buzz, et Neil Armstrong. Tous les 3 sont nés en 1930, à l'époque ils ont donc 39 ans. Ils sont entraînés, et même surentraînés, ils sont surtout motivés à la vie, à la mort. Ils savent que toute la planète a les yeux rivés sur eux, or les experts les plus optimistes leur donnent à peine 50% de chances de succès. Le 16 juillet, matin du grand départ, l'équipage d'Apollo 11 est en train de prendre son petit déjeuner quand on lui annonce la visite de l'administrateur général de la NASA. Celui-ci insiste pour que les trois hommes privilégient avant tout la sécurité, et pour alléger la pression qui pèse sur leurs épaules, il leur annonce que, dans le cas où la mission devrait, pour une raison ou pour une autre, être interrompue, tous les trois seraient retenus pour la prochaine tentative d'alunissage, et ce, au mépris de la rotation habituelle des équipages. Enfin, à 14h32, heure française, juché au sommet d'une fusée Saturn V de 111 mètres de haut et qui déploie 155 millions de chevaux, la capsule Apollo 11 décolle de Cap Canaveral, rebaptisée Cap Kennedy. Il reste 18 mois avant la fin de la décennie, la NASA va tenter de tenir le pari du président assassiné. Tout semble vouloir se passer de la meilleure façon possible. Certes, à Houston, où se trouve la base de contrôle, on a eu peur de la sonde soviétique Luna 15 qui faisait route en même temps vers la Lune. Mais les Soviétiques ont rassuré les Américains sur leurs intentions. À mon avis, ils n'en pensaient pas moins. Le 18 juillet à 23h, la capsule Columbia, munie de son module lunaire baptisé Eagle, sont à 320 000 km de la Terre, à 62 000 de la Lune. Ça y est, ils entrent dans la zone d'influence de cette planète. Leur vitesse augmente pour atteindre plus de 4000 km/h. Le samedi 19 juillet, Apollo entre en orbite lunaire à 18h22. Le lendemain dimanche, le module Eagle se détache de la capsule Columbia et vous imaginez la frustration intense de Collins qui reste dans la capsule tandis que ses camarades, eux, vont s'approcher de la Lune. Il a été entraîné pendant des semaines à supporter ce choc psychologique. À 13h46, Eagle passe du côté de la face cachée. On n'a plus de nouvelles pendant tout un long moment et quand le module réapparaît, il n'est plus qu'à 25 km d'altitude. Au moment où commencent les manœuvres d'alunissage, en France on est déjà le lundi 21 juillet. Naturellement, aux États-Unis, c'est encore le dimanche. À bord du module, Aldrin et Armstrong ont les yeux rivés sur les indicateurs de bord. Le pilotage automatique doit les faire alunir tout seul sur la mer de la tranquillité. Or soudain, à 1830 mètres d'altitude, un voyant jaune s'allume, une alarme stridente retentit. L'ordinateur de bord a dépassé ses capacités d'exécution. Est-ce qu'on va interrompre la mission si près du but? À Houston, c'est la panique. Les patrons de la NASA ont quelques secondes pour prendre une décision. Heureusement, un jeune contrôleur de 25 ans, Steve Bales, a passé des semaines à étudier ce fameux programme d'ordinateur. Or, lors d'une simulation, il avait rencontré exactement le même problème et l'ordinateur s'était bien comporté jusqu'au bout. On lui fait confiance. La mission continue. À 1000 mètres, nouvelle alarme. Aldrin et Armstrong pâlissent. Décidément, c'est de la malchance. À Houston, tout le monde observe Steve Bales. À lui de décider. « C'est bon, dit-il, on continue. » Parvenu à 400 mètres de la surface lunaire, les deux astronautes font un constat inquiétant. Ils ne sont pas du tout là où ils devraient être, en tout cas s'ils se réfèrent aux simulations effectuées ces dernières semaines. De petits décalages, liés aux conditions de vol réelles, les ont déroutés loin de l'endroit prévu pour l'alunissage. Or, ce qu'ils voient est terrifiant. Ce sont d'énormes rochers qui entourent un cratère béant sur lequel le module a l'air de foncer. Armstrong prend alors une grave décision. Il enclenche la commande manuelle. Adieu le pilotage automatique, maintenant c'est lui qui tient la barre. Le problème, c'est que la jauge n'indique plus que 90 secondes de carburant et que les champs de rochers qu'il survole en ce moment n'autorisent aucun alunissage. 40 secondes. 30 secondes, Armstrong a repéré un endroit un peu moins accidenté. Il y conduit le module. Un voyant orange se met à clignoter. Bientôt la panne sèche. Aldrin ferme les yeux et prie. Tout le monde prie. De toute façon, il est trop tard pour interrompre la mission. Le temps de séparer les deux étages du module, celui-ci se serait déjà écrasé. Ça y est, un voyant bleu vient de s'allumer. Eagle vient d'entrer en contact avec le sol lunaire. Ils ont réussi. Il est 3h52, heure de Paris, ce très historique 21 juillet 1969. Le sort a désigné Armstrong pour sortir le premier. Lentement, très lentement, Il descend les barreaux de l'échelle. Elle est trop courte, alors il saute. 3h56. Là-bas, plus de 600 millions de terriens ont les yeux rivés à leur télévision. Armstrong pose un pied, il foule le sol lunaire, il prononce la célèbre phrase qu'il a apprise par cœur après l'accord de la Maison Blanche et du président Nixon lui-même. « Ce n'est qu'un petit pas pour l'homme, mais c'est un bond gigantesque pour l'humanité. » La réalité vient de rattraper la BD. On a marché sur la Lune. Buzz Aldrin est maintenant dehors avec lui. Les deux hommes s'amusent du peu de pesanteur lunaire. Ils ont l'impression de ne peser que 15 kilos, et d'ailleurs c'est le cas. Pendant 2h30, les deux astronautes vont procéder à toutes sortes d'opérations scientifiques. Ils recueillent divers échantillons, font des photos, ils installent un sismomètre émetteur, enfin, tout ce qu'on fait généralement quand on est sur la Lune, vous savez bien. Au moment de décharger du matériel, Armstrong découvre dans un compartiment du module cette inscription « Bonne chance, Neil et Buzz, de la part de toute l'équipe de vérification ». Voilà une entorse au règlement qui fait chaud au cœur. Les deux hommes, tout le monde se le rappelle, vont planter sur la Lune un drapeau américain. Seulement, ils lui adjoignent aussitôt une plaque sur laquelle est indiqué qu'ils sont venus, je cite, « pacifiquement, au nom de l'humanité entière ».